cours de biologie générale, École nationale des techniques d'élevage première année des techniciens supérieurs chargés de cours. Monsieur Mbewasemnoji Djekeme Evariste, doctorant en santé et production animale année académique 2025 à 2026. Biologie générale. Première partie. Chapitre 1er. Origine de la vie. On croyait par le passé que les êtres vivants se forment par génération spontanée. On pouvait lire ainsi dans un traité de botanique datant de 1609 que des feuilles tombant d'un arbre se transformaient en poissons si elles touchaient l'eau, ou en oiseaux si elles touchaient la terre. Francesco Rodi, qui vécut de 1626 à 1691, semble avoir été le premier à aborder expérimentalement ce problème. Il montra que les asticots qui donnent naissance aux mouches ne proviennent pas d'une génération spontanée, mais bien de deux mouches. Au XIXe siècle, la querelle entre Pasteur et Pouchet passionna le grand public. Pouchet prétendait démontrer l'existence de la génération spontanée. Pasteur contesta formellement ses résultats et démontra que toute prétendue génération spontanée était causée par une contamination microbienne que l'on pouvait éviter par stérilisation. La naissance de la pensée évolutionniste, avec Lamarck de 1744 à 1829 et Darwin de 1809 à 1882, mit fin à la philosophie vitaliste selon laquelle les substances organiques diffèrent des substances inorganiques par des qualités spéciales. Friedrich Wöhler démontra en 1828 que les substances organiques sont des substances ordinaires en réalisant pour la première fois la synthèse chimique d'une substance organique, l'urée. En 1897, Edward Buchner prouva qu'une activité métabolique peut se produire en dehors des cellules, ce qui lui valut le prix Nobel de chimie en 1907. Au début du XXe siècle, Hermann von Helmholtz et William Thomson formulèrent une théorie de la panspermie, popularisée par Svante Arrhenius. Cette théorie considère la vie comme une caractéristique fondamentale de l'univers. La Terre aurait été ensemencée par une vie extraterrestre. En 1969, on trouva effectivement dans une météorite tombée en Australie de nombreuses substances organiques, notamment des acides aminés. Dans les années 1920, les biochimistes Alexandre Oparin et John Haldane proposèrent indépendamment que des molécules organiques auraient pu se former à l'origine dans une sorte de soupe primitive à partir de précurseurs minéraux présents dans l'atmosphère primitive, comme le méthane, l'ammoniac et l'hydrogène. En 1953, dans le laboratoire du chimiste américain H. Urey, Stanley Miller obtint la formation d'acides aminés à partir d'un mélange gazeux soumis à des décharges électriques. Il montrait ainsi pour la première fois que des précurseurs de molécules biologiques peuvent résulter d'une chimie élémentaire. Après la Seconde Guerre mondiale, la biologie devient moléculaire. Le dogme central de la biologie moléculaire est formulé en 1958 par Francis Crick. À la fin des années 1960, Leslie Orgel, Francis Crick et Carl Woese proposèrent l'hypothèse de molécules d'ARN autoréplicatives pour expliquer l'origine du matériel génétique. La découverte en 1982, par Thomas Sesch et Sidney Altman, des ribosomes, c'est-à-dire des ARN dotés de propriétés catalytiques, renforça cette hypothèse et leur valut le prix Nobel de chimie en 1989. Ainsi, le monde vivant actuel, fondé sur la relation ADN vers ARN vers protéines, aurait évolué à partir d'un monde ancestral où l'ARN remplissait toutes les fonctions. Structure cellulaire. La cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle la plus simple en laquelle peut être divisé notre organisme. L'être humain possède plusieurs milliards de cellules. Les cellules se lient en combinaisons diverses constituant les tissus, les organes, puis les systèmes et enfin l'organisme tout entier. L'étude des cellules s'appelle la cytologie. Les cellules n'ont pas toutes la même forme ni la même durée de vie. Leur forme est liée à leur fonction. Les globules rouges ont une forme de disque, les cellules musculaires sont cylindriques, les cellules nerveuses sont ramifiées, les cellules adipeuses sont sphériques. Chaque cellule est une véritable petite usine dans laquelle des structures spécialisées, appelées organites, baignent dans un liquide appelé cytosol. L'intérieur de la cellule comprend deux grandes parties, le cytoplasme et le noyau. La membrane plasmique entoure entièrement la cellule et assure plusieurs fonctions essentielles. Elle sert de barrière protectrice entre le milieu intérieur et extérieur. Elle transporte des substances dans les deux sens. Elle permet la reconnaissance des cellules entre elles. Elle possède des récepteurs qui lui permettent de reconnaître les hormones, les enzymes, les nutriments et les anticorps. Le cytoplasme est un gel contenant le cytosol et les organites. Les principaux organites sont les suivants. Les ribosomes synthétisent les protéines à partir des acides aminés selon les instructions du noyau. Le réticulum endoplasmique granuleux, couvert de ribosomes, stocke et distribue les protéines synthétisées. Le réticulum endoplasmique lisse, sans ribosomes, synthétise les lipides et met en réserve le calcium. L'appareil de Golgi, unique par cellule, récupère, trie et distribue les protéines vers l'extérieur de la cellule. Les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule, produisant l'énergie à partir des nutriments. Les lysosomes contiennent des enzymes qui détruisent les substances envahissantes comme les bactéries. Les centrioles dirigent le sens de la division cellulaire. Les vacuoles stockent des substances de réserve ou des déchets. Le noyau est entouré par la membrane nucléaire. Il contient le nucléole et la chromatine, qui baignent dans le nucléoplasme. Le noyau commande toute l'activité métabolique de la cellule. La chromatine contient 46 chromosomes constitués d'acides désoxyribonucléiques, ou ADN, porteurs du code génétique. Les gènes sont des régions particulières de l'ADN contenant les instructions pour fabriquer une protéine spécifique. Les nucléoles contiennent de l'ARN, ou acide ribonucléique, qui décode les informations génétiques et assure leur exécution. Chapitre 3. Base moléculaire de la vie. Les acides nucléiques jouent un rôle fondamental dans le stockage, le maintien et le transfert de l'information génétique. Il en existe deux types, l'acide désoxyribonucléique ou ADN, et l'acide ribonucléique ou ARN. L'ADN est le support biochimique de l'information génétique chez tous les êtres vivants, à l'exception de quelques virus qui utilisent l'ARN. L'ADN de tous les êtres vivants possède la même structure de base. Deux brins constitués d'une succession de nucléotides. Ce qui distingue les espèces, c'est le nombre de molécules, la longueur, la forme linéaire ou circulaire, et surtout la séquence des bases azotées. Chez l'homme, l'ADN nucléaire comprend 3,5 milliards de paires de nucléotides répartis dans 46 chromosomes. Chez les eucaryotes, c'est-à-dire les organismes dont les cellules possèdent un véritable noyau, les gènes sont constitués de deux types de séquences. Les exons, parties codantes portant l'information pour fabriquer les protéines, et les introns, parties non codantes qui s'intercalent entre les exons. On parle de gènes mosaïques. Chez les prokaryotes comme les bactéries, l'ADN est situé directement dans le cytoplasme et constitue un seul chromosome circulaire. L'ARN est produit par transcription de l'ADN. On distingue trois types principaux, l'ARN messager, l'ARN de transfert et l'ARN ribosomal. L'ARN est constitué d'une seule chaîne de nucléotides. Les nucléotides sont les monomères de base des acides nucléiques. 5 bases azotées entrent dans leur composition. Les bases pyrimidiques, formées d'un cycle hexagonal, sont au nombre de 3, la cytosine, l'uracile et la thymine. Les bases puriques, formées de 2 cycles accolés, sont l'adénine et la guanine. Le sucre des nucléotides est une pentose à 5 carbones, le ribose dans l'ARN et le désoxyribose dans l'ADN. Chapitre 4. Morphologie cellulaire. La morphologie cellulaire est l'étude de la forme et de la structure des cellules. Elle permet de comprendre comment l'organisation de la cellule détermine sa fonction. La cellule animale a une forme régulière ou arrondie, d'une taille comprise entre 10 et 30 micromètres. Elle est souple car elle ne possède pas de paroi rigide. Ses lysosomes sont bien développés et sa membrane plasmique est très dynamique. La cellule végétale a une forme plus géométrique et régulière, avec une taille souvent plus grande, entre 10 et 100 micromètres. Elle possède une paroi rigide qui protège et maintient sa forme, une grande vacuole centrale qui régule la pression interne, et des chloroplastes qui permettent la photosynthèse. Chapitre 5. Physiologie cellulaire. La physiologie cellulaire étudie le fonctionnement des cellules, c'est-à-dire les processus qui leur permettent de vivre, de se développer, de communiquer et de répondre à leur environnement. Les échanges cellulaires se font selon plusieurs mécanismes. La diffusion simple est le mouvement passif des molécules de la zone de forte concentration vers la zone de faible concentration. La diffusion facilitée utilise des protéines membranaires pour faciliter ce passage. Le transport actif nécessite de l'énergie pour déplacer des molécules contre leur gradient de concentration. L'endocytose et l'exocytose permettent l'entrée ou la sortie de grosses molécules par déformation de la membrane. La signalisation cellulaire repose sur la réception de signaux externes, comme les hormones et les neurotransmetteurs, par des récepteurs membranaires. Ce signal est ensuite transmis à l'intérieur de la cellule, qui produit une réponse adaptée. Modification de l'expression génétique, activation enzymatique ou modification du cytosquelette. Chapitre 6. Métabolisme cellulaire. Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques au sein d'un organisme. Ces réactions permettent la dégradation et la synthèse de molécules glucidiques, lipidiques et protidiques, ainsi que la production et l'utilisation d'énergie. Le métabolisme assure un triple rôle. Il établit la structure de l'organisme, en permettant aux molécules de se lier et de réagir entre elles, et en organisant la compartimentation des fonctions dans les organites. Il assure la fonctionnalité, c'est-à-dire l'implication de la structure dans son environnement. Et il permet la communication entre structure et fonctionnalité, par des signaux chimiques et électriques. Le métabolisme se divise en deux phases complémentaires. Le catabolisme est la phase de mobilisation et de dégradation des molécules, libérant de l'énergie. L'anabolisme est la phase de construction et de synthèse de nouvelles molécules, consommatrices d'énergie. Ces deux phases sont indissociables. Il ne peut y avoir d'anabolisme sans catabolisme, et inversement. La phase catabolique dégrade les glucides, lipides et protides en une molécule commune à deux atomes de carbone, l'acétylcoenzyme. Cette molécule entre ensuite dans le cycle de Krebs, ou cycle de l'acide citrique, qui libère de l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate, ou ATP. L'ATP est la véritable monnaie énergétique de l'organisme, qui alimente toutes les réactions de synthèse de l'anabolisme. Chapitre 7. Phénomène de membrane. La membrane plasmique est une membrane biologique de très faible épaisseur, de l'ordre de 75 à 90 angstroms, qui délimite la cellule et assure des échanges sélectifs avec le milieu extérieur. Sa structure est une bicouche phospholipidique. Chaque molécule de phospholipide possède une tête hydrophile orientée vers l'extérieur et une queue hydrophobe orientée vers l'intérieur. 7. Bicouche est parcourue de protéines membranaires qui assurent les échanges intercellulaires, l'accrochage des cellules et la reconnaissance de substances diverses. Les glucides membranaires, portés par les lipides ou les protéines, forment des glycolipides et des glycoprotéines. Le cholestérol représente 30 à 45% des lipides membranaires dans les cellules animales. La perméabilité de la membrane dépend de la taille, de la charge électrique et de la liposolubilité des molécules. Trois types de transporteurs protéiques assurent le passage sélectif des grosses molécules. Les transporteurs actifs primaires, appelés pompes, utilisent l'énergie de l'ATP pour faire traverser des ions contre leur gradient de concentration. Les transporteurs secondaires, ou facilitateurs, assurent un passage passif le long du gradient de concentration. Les transporteurs passifs, ou canaux, sont des ports qui s'ouvrent et se ferment de façon contrôlée. L'endocytose et l'exocytose sont deux processus permettant le transport de substances trop grandes pour traverser directement la membrane, en formant des vésicules. Lors de l'exocytose, une vésicule intracellulaire fusionne avec la membrane et libère son contenu à l'extérieur. C'est le mécanisme utilisé par les cellules nerveuses pour libérer les neurotransmetteurs. L'endocytose est le processus inverse. La membrane se déforme vers l'intérieur pour envelopper les substances à faire entrer. On distingue la phagocytose, qui englobe de grosses particules comme des bactéries, et la pinocytose, qui concerne les liquides et les solutés. Chapitre 8. Mécanisme cellulaire de la reproduction. La mitose est le mécanisme de division cellulaire permettant la croissance et le renouvellement des tissus. Le cycle cellulaire comprend une interphase et la mitose proprement dite. L'interphase est la période pendant laquelle la cellule ne se divise pas. Elle comprend la phase G1, pendant laquelle la cellule croît et remplit ses fonctions, la phase S, pendant laquelle l'ADN est répliqué et les chromosomes sont dupliqués, et la phase G2, de préparation à la division. La mitose proprement dite comprend quatre étapes. La prophase. Les chromosomes se condensent, le fuseau mitotique se forme et l'enveloppe nucléaire se désagrège. La métaphase. Les chromosomes s'alignent à l'équateur de la cellule sur la plaque métaphasique. L'anaphase. Les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés. La télophase et cytodiérèse. Les chromatides se décondensent, l'enveloppe nucléaire se reforme et la cellule se divise en deux cellules filles identiques. La méiose est le mécanisme de division cellulaire permettant la formation des gamètes. Elle se déroule en deux divisions successives. La première division, dite réductionnelle, sépare les chromosomes homologues. La deuxième division, dite équationnelle, sépare les chromatides sœurs, comme dans une mitose classique. Au final, on obtient quatre cellules haploïdes, c'est-à-dire possédant la moitié du nombre normal de chromosomes. Chapitre 9. Différenciation cellulaire. Les cellules souches sont des cellules indifférenciées capables de s'auto-renouveler et de se différencier en cellules spécialisées. On en distingue plusieurs types selon leur potentiel. Les cellules souches totipotentes, issues des toutes premières divisions de l'œuf fécondé, peuvent donner naissance à tous les types de cellules de l'organisme, y compris le placenta. Les cellules souches pluripotentes, issues d'un embryon de 5 à 7 jours, peuvent donner naissance à plus de 200 types de cellules représentatives de tous les tissus. Les cellules souches multipotentes, issues de tissus fœtaux ou adultes, peuvent donner naissance à un ou plusieurs types cellulaires et participent au renouvellement des tissus adultes. Les cellules souches unipotentes ne peuvent donner naissance qu'à un seul type de cellule. Enfin, les cellules souches pluripotentes induites sont des cellules adultes reprogrammées génétiquement pour retrouver les caractéristiques des cellules souches embryonnaires. Les cellules souches embryonnaires, dites cellules ES, possèdent trois caractéristiques fondamentales. Elles sont pluripotentes. Elles possèdent une activité télomérase élevée qui leur permet de proliférer indéfiniment sans perdre leur potentiel de différenciation. Et elles ont un caractère tumoral, étant capables de former des tumeurs lorsqu'elles sont isolées de leur contexte embryonnaire. L'équilibre entre auto-renouvellement et différenciation est contrôlé par la voie de signalisation LIF, acronyme de Leukemia Inhibitory Factor, et la protéine GP130. La fixation du LIF sur son récepteur active le facteur de transcription STAT3, qui maintient la cellule en auto-renouvellement. Une deuxième voie de signalisation, dépendante de la protéine GP130, stimule au contraire la différenciation. La régulation très fine de ces deux voies permet à la cellule souche de maintenir l'équilibre entre se renouveler et se spécialiser. 11. Mode de reproduction. La reproduction est l'action par laquelle les êtres vivants se multiplient pour assurer la pérennité de l'espèce. On distingue la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. La reproduction sexuée implique l'union d'un gamète mâle, le spermatozoïde, et d'un gamète femelle, l'ovule. Il en résulte la formation d'une cellule œuf à partir de laquelle se développe un nouvel individu. La fécondation peut être externe, dans le milieu, comme chez les poissons et les amphibiens, ou interne, dans l'organisme de la femelle, comme chez les mammifères. Selon le mode de développement de l'embryon, on distingue trois types d'animaux. Les ovipares pondent des œufs dans le milieu extérieur. La nutrition de l'embryon est assurée par les réserves stockées dans l'œuf. Les reptiles et les oiseaux sont ovipares. Les vivipares, comme les mammifères, gardent l'embryon dans l'utérus de la mère. La nutrition se fait par échange entre le sang de la mère et celui de l'embryon, grâce au placenta. Les ovovivipares conservent les œufs dans le corps de la femelle jusqu'à l'éclosion, sans échange nutritif avec la mère. C'est le cas de certains poissons comme les guppies et de certains reptiles comme la vipère. La reproduction asexuée, aussi appelée reproduction végétative, correspond à une simple multiplication cellulaire sans fécondation. Les descendants sont génétiquement identiques entre eux et à leur unique parent. Elle peut se faire par bourgeonnement, comme chez l'hydre, par fragmentation, comme chez certains vers, ou par parthénogenèse, c'est-à-dire le développement d'un œuf non fécondé. Chez les abeilles, les mâles appelés faux-bourdons sont produits exclusivement par parthénogenèse. La polyembryonie, qui est la fragmentation de l'embryon en plusieurs individus identiques, est à l'origine des vrais jumeaux chez l'être humain. Biologie générale, deuxième partie. Chapitre 1er. Les enzymes et activités enzymatiques. Les enzymes sont des molécules de nature protéique qui jouent le rôle de catalyseurs biologiques. Elles déterminent le profil des transformations chimiques dans les cellules et assurent la conversion d'une forme d'énergie en une autre. Environ un quart des gènes du génome humain code pour des enzymes, ce qui témoigne de leur importance pour la vie. On distingue deux groupes d'enzymes. Les enzymes extracellulaires, ou exoenzymes, sont synthétisées à l'intérieur de la cellule puis sécrétées à l'extérieur. Les enzymes intracellulaires, ou endoenzymes, sont synthétisées et utilisées entièrement à l'intérieur de la cellule. Les enzymes sont des catalyseurs remarquables. Elles accélèrent les réactions chimiques dans les systèmes biologiques d'un facteur d'au moins 1 million. Elles agissent à concentration très faible et ne sont pas consommées par la réaction. Chaque molécule d'enzyme peut catalyser un nombre illimité de réactions. Elles n'ont aucune action sur l'équilibre thermodynamique de la réaction. Elles abaissent simplement l'énergie d'activation nécessaire pour que la réaction se produise. Enfin, elles sont spécifiques. Les amylases n'agissent que sur les amidons, les protéases n'agissent que sur les protéines. La fonction de l'enzyme est liée à son site actif, qui est une cavité ou un sillon dans lequel le substrat se fixe. Ce site actif comprend un site de reconnaissance, qui assure la complémentarité de forme avec le substrat, et un site catalytique, qui réalise la transformation du substrat en produit. Chapitre 2. La cellule procaryote. Les cellules procaryotes, comme les bactéries et les cyanobactéries, ne possèdent pas de véritable noyau. Ce sont des cellules de petite taille, entre 0,2 et 3 micromètres de diamètre. Elles sont limitées par une membrane plasmique doublée par une paroi cellulaire constituée de peptidoglycanes, qui lui confère rigidité et forme. La membrane plasmique bactérienne est riche en systèmes enzymatiques impliqués dans la respiration cellulaire, jouant ainsi un rôle analogue à celui des mitochondries dans les cellules eucaryotes. L'ADN bactérien est un chromosome unique circulaire, appelé nucléoïde, situé directement dans le cytoplasme. Des éléments génétiques supplémentaires, les plasmides, peuvent aussi être présents. Le cytoplasme contient 20 000 à 30 000 ribosomes mais pas d'autres organites membranaires. Certaines bactéries sont dotées de flagelles pour se déplacer, ou de pili pour adhérer à d'autres cellules. Dans des conditions favorables, une unique bactérie peut se multiplier et donner, en 12 heures, une colonie d'une dizaine de milliards de cellules. Chapitre 3. La cellule eucaryote. La cellule eucaryote se rencontre chez les animaux et les végétaux. C'est la cellule de plus grande taille, entre 2 et 100 micromètres, et d'organisation la plus complexe. Sa caractéristique principale est la présence d'un véritable noyau entouré d'une enveloppe nucléaire. Le noyau est délimité par une enveloppe à deux membranes percées de pores. Il contient les chromosomes, formés d'ADN associés à des protéines, ainsi qu'un ou plusieurs nucléoles riches en ribonucléoprotéines. Le noyau est le lieu du stockage et de la réplication de l'ADN. Le cytoplasme est compartimenté par de nombreux organites. Le réticulum endoplasmique lisse assure le métabolisme lipidique. Le réticulum endoplasmique granulaire, couvert de ribosomes, synthétise les protéines. L'appareil de Golgi trie et distribue les protéines. Les lysosomes dégradent les molécules indésirables. Les peroxysomes oxydent les molécules organiques. Les mitochondries produisent l'énergie par respiration cellulaire. Dans les cellules végétales, les chloroplastes assurent la photosynthèse. Les mitochondries et les chloroplastes possèdent leur propre ADN. Le cytosquelette est une armature de molécules protéiques qui structure le volume cellulaire, organise l'espace intérieur et participe au mouvement de la cellule. Dans un organisme pluricellulaire comme le corps humain, environ 100 000 milliards de cellules s'associent pour former des tissus et des organes. On reconnaît plus de 200 types cellulaires distincts. Toutes dérivent d'une unique cellule initiale mais expriment des programmes génétiques particuliers selon leur voie de différenciation. Chapitre 4. Un jugulaire. L'organisation du corps humain peut être décrite à différentes échelles. L'atome, la molécule, l'organite, la cellule, le tissu, l'organe, et enfin l'appareil ou système. L'histologie, ou anatomie microscopique, est l'étude des tissus, à la fois descriptive et fonctionnelle. Un tissu est un ensemble de cellules présentant une structure semblable et remplissant une ou plusieurs fonctions communes. Dans le corps humain, on distingue quatre tissus. Primaries. Le tissu épithélial est un tissu de revêtement, comme l'épiderme de la peau, ou un tissu glandulaire, comme le pancréas. Le tissu conjonctif assure le soutien, la protection et la liaison entre les autres tissus. Le tissu musculaire, qu'il soit strié squelettique, lisse ou cardiaque, permet le mouvement par contraction. Le tissu nerveux, central et périphérique, assure la communication et la régulation de l'organisme. Un tissu composé est une combinaison de tissus simples associés morphologiquement et fonctionnellement. La plupart des organes contiennent des représentants des quatre tissus primaires, dont la disposition détermine la structure et les capacités fonctionnelles de l'organe. Conclusion. Ce cours de biologie générale vous a introduit au fondement de la vie cellulaire. De l'origine de la vie aux mécanismes de reproduction, en passant par la structure et le fonctionnement des cellules, vous disposez maintenant des bases nécessaires pour aborder les cours plus spécialisés de votre formation en technique d'élevage. Fin du cours de biologie générale. École nationale des techniques d'élevage. Année académique 2025 à 2026.